With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le... Qu'est-ce qui se passe? Je suis Patrick.
C'est quoi ça?
Et c'est Jeff, le choc du merge qui s'est bien passé, dont on va parler tout de suite dans le rendez-vous tech, le merge de Ethereum, qui s'est incroyablement bien passé, surprise générale. Et on a, pour nous aider à comprendre tout ça, d'un côté, bah Jeff, qui nous rejoint directement de la Californie. Comment ça va, Jeff?
Ça va très bien, je reviens de vacances, c'est mon premier rendez-vous, et c'est le rendez-vous tech, donc c'est merveilleux de vous retrouver après 15 jours passés en Polynésie française. Si jamais vous n'avez pas été à Tahiti, comme je ne l'avais pas fait jusqu'ici, bah allez-y, parce que c'est absolument merveilleux, c'est le paradis sur Terre.
Marion, est-ce que tu es déjà allée à Tahiti ?
Jamais, jamais, mais je vais l'ajouter à ma liste de destinations de rêve.
Très bien, très bien. Écoute, c'est un truc que je devrais faire aussi un jour à un moment, parce qu'en Finlande, il commence à faire un tout petit peu froid, même si là, je suis en France en même temps. Si le micro est un petit peu étrange, c'est peut-être pour cette raison. Le micro est un nouveau qui a d'ailleurs occasionné un retard dans l'émission, mais il devrait être pas mal. C'est un MV7 de Shure, qui est le petit frère du SM7B, qui est mieux que le Elgato Wave 2. Bon, bref, vous en foutez, je vous en parlerai peut-être un jour dans un édito pour les Patriotes, par exemple, pour des histoires de micro encore. Mais justement, les Patriotes, ça me donne l'occasion de les remercier. Merci à Ronald de la Reberdière, qui est le nouveau Patriote, qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. Merci beaucoup à toi, Ronald. Et merci aux producteurs Lancelot Davizard et Franck Matignon, les producteurs de cet épisode, qu'on remercie tous les mois. J'espère que vous aimez les crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies qui sont plus vertes, parce qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. On a le merge d'Ethereum qu'on va vous détailler, parce qu'il a eu lieu, ça y est, c'est terminé. On a aussi d'autres sujets intéressants, comme par exemple le rachat de Figma par Adobe, qui est un gros morceau pour plusieurs raisons, et je poserai des questions à Jeff à ce propos, et puis quelques autres petits trucs aussi. L'épisode risque d'être un petit peu plus court, ça doit être la 30e fois que je dis ça dans l'émission, mais possiblement cette fois-ci. Donc, on se lance tout de suite. J'ai pas les jingles pour le bonheur de certains, mais on a le résumé de ce qui s'est passé avec l'Ethereum. Et ce qui s'est passé, c'est un truc dont on vous parle depuis quelques temps, The Merge. Ça fait un petit peu titre de film, ça n'en est pas un, même si techniquement c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on peut voir dans certains films. C'est en fait le passage de l'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que traditionnellement, et même à la base, les blockchains et les crypto-monnaies fonctionnent avec des processus qui sont, par conception, extrêmement consommateurs d'énergie. C'est-à-dire qu'ils nécessitent, pour fonctionner, de résoudre des problèmes mathématiques complexes qui ne peuvent être faits que par des machines puissantes qui consomment beaucoup d'énergie pour faire des calculs très, très compliqués. Et au départ, au lancement du Bitcoin et de la blockchain, c'est peut-être pas un souci, mais d'une part, la complexité croît, donc ça consomme de plus en plus, et puis surtout, l'ampleur qu'ont pris ces crypto-monnaies a continué à croître, et déjà, ça devient une problématique qu'on évoque très souvent, et dans le futur, si on veut que si les promoteurs de ces crypto-monnaies, et plus d'une manière plus générale, parce qu'on parle de l'Ethereum, de la blockchain et de ses différents usages, si on veut les envisager de manière un petit peu sérieuse, il faut trouver une solution à ce problème. La solution à ce problème, c'est le proof of stake. Il y en a plusieurs, mais celui qui est le plus populaire dans les crypto-monnaies et dans les blockchains, c'est le proof of stake, qui fonctionne d'une manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre des problèmes très complexes pour valider des blocs dans la blockchain et être récompensé avec des bitcoins, ou la crypto-monnaie de la blockchain, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « je vais mettre en escrow », comment on dit, Marion, en escrow, en français, en garantie, en gage, C'est ça, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est une garantie, ouais. C'est une caution, en fait, on dit caution.
Exactement, voilà. Donc, on met en caution, merci, heureusement que tu es là. On donne comme caution un certain nombre de ETH, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, et on valide le bloc. Et une fois que le bloc est bien validé, immuable, hein, souvenez-vous, la blockchain, sa grosse caractéristique, c'est qu'une fois qu'un bloc est validé, tout ce qui est enregistré dedans est validé pour toujours, c'est littéralement gravé dans la roche et encore plus. Et donc, une fois que ce truc est validé par le consensus des utilisateurs, eh bien, vous pouvez, a priori, récupérer votre caution avec un petit bonus en plus. Et c'est comme ça qu'on motive les gens qui ont un enjeu dans cette blockchain. C'est ça le stake, l'enjeu qu'ils ont mis. Enfin, ils ont aussi un enjeu à ce que cette monnaie, cette transaction se passe bien parce qu'eux-mêmes ont de la valeur en crypto-monnaie, dans cette crypto-monnaie. Eh bien, ils récupèrent un petit peu plus. C'est presque un investissement d'avoir de cette crypto-monnaie parce qu'on va récupérer un petit pourcentage en plus parce qu'on participe à cette opération. Et surtout, ça ne nécessite quasiment pas de puissance, contrairement à ce qui reste aujourd'hui, c'est le Bitcoin. La crypto-monnaie et la blockchain qui fonctionnent avec Proof of Work, on va dire essentiellement, il n'y a plus que le Bitcoin. Et donc, ça ne nécessite pas plus de puissance que n'importe quelle autre opération informatique classique. Donc, il reste la question de la consommation de l'informatique, ça on peut le mettre de côté. Les questions d'utilisation des blockchains et des crypto-monnaies, qui est également un autre problème, mais l'un des plus gros griefs qu'on avait envers les crypto-monnaies, enfin en tout cas dans le cas de Ethereum, qui était sa consommation énergétique, est maintenant absolument atomisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison de reprocher à Ethereum de consommer trop d'énergie, au-delà de la consommation, encore une fois, des systèmes informatiques en général. Et c'est d'autant plus important qu'Ethereum n'est pas qu'une crypto-monnaie. C'est un écosystème qui sert aussi à beaucoup d'autres choses. Les smart contracts, les opérations, il y a des programmes, il y a des services, il y a des DAO, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur la blockchain. Ethereum est l'activité principale, enfin la blockchain principale qui sous-tend une immense partie de l'activité des blockchains. Du coup, je me tourne vers Marion. Ça y est, tout va bien, problème des blockchains réglés. C'est le bonheur, le paradis, c'est Tahiti de l'informatique. Ça a l'air quand même assez positif ce qui s'est passé.
Ouais, ça a l'air d'être une grosse étape. Après, de ce que j'ai compris, c'est juste pour préparer les futures évolutions qui permettront de réduire la consommation. Donc, on n'y est pas.
On n'y est pas encore. Alors, en fait. On y est pour The Merge. Il y a d'autres évolutions ensuite qui permettent l'extension du réseau pour avoir plus d'échelle, une croissance d'échelle, la possibilité de passer. Oui, mais la consommation, ça y est, elle est de fait diminuée. Donc cette partie est réglée.
Ouais, c'est une première étape, mais ça résout pas tous les problèmes. Moi, il y a un petit détail qui me gêne un peu, c'est c'est le principe de proof of stake, où il faut obligatoirement détenir 32 ETH pour pouvoir participer et contribuer. Pour moi, c'est vraiment laisser l'accès à un petit groupe de personnes et ça devient un groupe très élitiste. Je trouve ça assez dangereux. Comme principe. Alors, il y avait déjà un petit peu le côté élitiste avec le problème d'avoir le matériel assez performant pour pouvoir miner, qui du coup conditionnait l'accès au minage de crypto-monnaies, mais je trouve que l'accès du proof of stake est assez problématique également. Donc, je serais assez intéressée pour voir les alternatives aussi qui existent, autres que ça, mais je... Ouais, c'est mon avis.
Non, mais tu fais bien de le noter parce que c'est une opposition philosophique très forte entre le proof of work et le proof of stake parce que au départ, la blockchain et les crypto-monnaies ont comme idéal la décentralisation, alors du système financier d'une part, mais d'une manière générale de du fonctionnement de l'informatique. Et cette philosophie est exactement comme tu le dis, profondément mise à mal par le proof of stake, c'est une sorte de recentralisation des enjeux, des contrôleurs de cette blockchain. Alors, aussi, comme tu le dis, bon, concrètement, on avait cette centralisation déjà parce qu'il fallait des fermes de serveurs entiers. Il en faut encore pour le ouais. Bitcoin, des fermes de serveurs entiers pour pouvoir participer à cette activité. Mais philosophiquement, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'acteurs du Bitcoin s'y opposent, en plus du fait que beaucoup de gens ont investi énormément dans ces machines et dans ces fermes et que du coup, ils veulent pas qu'on passe au proof of stake parce que ça servirait plus à rien. Mais c'est d'ailleurs ce qui se passe déjà avec l'Ethereum. Il y a plein de mineurs Ethereum qui ne peuvent plus utiliser parce que il y avait un projet, enfin des idées de fork de la blockchain qui disait Ethereum, je me souviens plus du nom de la blockchain qui resterait en proof of stake, en proof of work. Ça a pas l'air de prendre. Là, c'est les premiers jours, mais ça a pas l'air de prendre. Et du coup, les gens qui avaient des fermes de serveurs pour miner de l'Ethereum, n'en ont plus du tout l'utilité et sont en train de revendre les cartes graphiques partout. Pourquoi? Moi, je me suis demandé pourquoi ils ne pouvaient pas passer au Bitcoin, par exemple, se mettre à miner du Bitcoin. Et le truc, c'est que les Bitcoins aujourd'hui sont tellement difficiles à miner, en plus du fait que l'énergie coûte cher, hein, donc ça, c'est un facteur aussi, même si la plupart des grosses fermes sont dans les pays où l'énergie est utilisée à tel ou tel moment quand elle serait perdue autrement, ou alors de l'énergie verte qui est spécifiquement à côté des barrages qui fournissent de l'énergie, etc. Mais en fait, le vrai problème, c'est que le Bitcoin est tellement compliqué à miner qu'il faut des ASICs qui sont des processeurs spécialisés, spécifiquement faits pour miner ça. Donc même les mineurs qui ont de quoi miner de l'Ethereum ne peuvent pas reconvertir leur matériel pour miner en Bitcoin. Donc vraiment, tu vois, il y a aussi cette concentration des personnes qui peuvent le faire de toute façon, même si en théorie, bon, bah, n'importe qui peut acheter une petite machine et essayer, mais ça devient un petit peu utopique, je trouve.
Le problème, en se disant, il suffit d'avoir une petite machine, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu vas avoir un groupe de personnes avec des petites machines qui vont essayer de miner, mais comme en fait, c'est à celui qui aura le plus de puissance, qui aura résolu le problème donné, qui va récupérer la crypto-monnaie, qui aura récupéré la blockchain, les autres vont travailler pour rien. Donc il y a un problème fondamental où il y a beaucoup de travail qui est perdu. Ce qui ne sera pas le cas avec le proof of stake. Puisque du coup, comme tu es validé en amont, chaque personne qui contribue va travailler et son travail sera utilisé. Ce qui n'est pas le cas du proof of work. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais en effet, d'avoir une barrière à l'entrée de aujourd'hui 66 000 euros, puisque ça correspond à peu près à 32 ETH pour participer, je trouve que en termes de principe. Après, je ne viens pas avec une contre-proposition. C'est-à-dire que c'est facile de critiquer, mais aujourd'hui, je n'ai pas de contre-alternative parfaite, quoi.
Et puis surtout, cette opération, ce qu'il faut noter, c'est à quel point elle a été magnifiquement effectuée. Elle a été vraiment, vraiment gérée. C'était un truc hyper compliqué à faire. Et techniquement, c'était une opération, ça correspondait, enfin, je sais pas, c'était genre changer les fondations d'un gratte-ciel pendant que le gratte-ciel est encore en place. Tu vois, c'était hyper compliqué à faire. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des merdes. Et beaucoup de gens moquaient les différents retards qui ont été nécessaires pour finalement lancer le changement. Et en fait, c'est juste que c'était des gens prudents et compétents qui ont bien fait les choses et au final, ça s'est super bien passé, quoi.
Mais c'est, de ce que j'ai compris, il fallait quand même que 16 400 mineurs se coordonnent pour lancer les mises à jour de leur système en même temps.
Ils avaient une très courte période.
Chapeau. Ouais. Chapeau quand même. C'est un joli travail de collaboration quand même.
Et puis, The Merge, c'est parce que la blockchain de test, je me souviens plus de son nom, mais la blockchain de test sur laquelle ils étaient déjà en proof of work, en proof of stake, devait être mergée, donc fusionnée avec la blockchain générale. Et c'est ça qui s'est produit. Donc, beau boulot. Jeff, je suis curieux, quelle est l'ambiance sur les crypto-monnaies et dans la Silicon Valley? Et surtout, est-ce que ce passage, parce que l'objection écologiste est certainement la plus grande qu'on faisait au système de blockchain, les crypto-monnaies c'est particulier, les NFT c'est particulier, mais la technologie en elle-même était hyper consommatrice d'électricité et d'énergie. Là, cette critique s'évapore complètement. Est-ce que dans la Silicon Valley, il y a des gens qui regardent ça et se disent « Ok, maintenant, peut-être que c'est un système qui peut donner quelque chose dans lequel on peut, auquel on peut s'intéresser ?»
Je ne suis pas sûr que ce soit l'élément déterminant et je dois préfacer mes commentaires par le fait que je n'ai aucune putain d'idée de ce que pense la Silicon Valley sur le merge parce que je viens juste de débarquer et littéralement c'est je descends de mon petit nuage et j'en ai rien à foutre du merge. Non, en fait je pense que
sur
c'est
les
super important
la blockchain quoi.
Surtout en fait tu vois c'est, j'arrive qu'est-ce qui se passe salut les gars. En gros comme tu le dis il y avait beaucoup de soucis liés à la consommation d'électricité, l'environnement etc. par rapport aux futures utilisations des blockchains et donc le fait que maintenant Ethereum utilise 1% de la consommation d'avant parce que c'est pas zéro, c'est 1% mais c'est énorme le fait qu'ils aient réussi à faire ça, ça veut dire que ça va coûter moins cher de faire du minting de NFT, ça va être beaucoup plus facile, tu vois, parce qu'il y avait énormément de problèmes aujourd'hui à utiliser Ethereum comme une espèce de backbone pour beaucoup de projets blockchain, parce qu'il fallait utiliser en fait un ledger pour stocker les informations que l'on crée, et donc il y avait souvent des coûts impliqués qui étaient énormes, ça pouvait coûter plusieurs ETH de faire un minting de NFT, par exemple. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Le problème, c'est que Bitcoin va pas changer et ça reste quand même la plus grosse cryptocurrency. Et je pense qu'il y aura énormément de soucis et de difficultés techniques parce que la base de code est pas aussi bien gérée, je pense, que Ethereum. Parce que, enfin, je vous l'avais dit, c'est un énorme succès technique qu'ils aient réussi à faire ça sans tout planter, quoi. C'est incroyable. Donc, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Bon, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent au niveau des cryptocurrencies. Tu as donc le côté, le régulateur, la SEC, qui est toujours en train d'essayer de décider ce qu'ils vont faire avec ça.
Le côté investissement dont je parlais tout à l'heure fait que les autorités s'y intéressent beaucoup plus sérieusement, parce que là, c'est plus un truc qui est oui, je fais travailler des ordinateurs pour faire ceci, cela. C'est genre, je mets 1000 ETH, je sais pas comment on dit en français, 1000 ETH, et je vais récupérer 4%. A priori, ça fonctionne d'une manière presque, enfin, beaucoup plus proche d'un investissement, quoi.
Oui, sauf que tu as eu énormément de banqueroutes parce que c'était des je sais pas comment ça se dit en français, des Ponzi schemes ou en fait des pyramides de Ponzi qui essayaient de rémunérer donc ces placements avec des taux qui étaient pas gérables. Enfin c'était comme on dit, if it's too good to be true, it is. Si c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème.
Bah c'est plus la même chose. Là, c'est plus des gens qui essayent de prendre ton argent en promettant des trucs. C'est le truc qui est intégré au système, la manière dont on fait fonctionner la blockchain. Et c'est comme ça que sont créés les nouveaux if.
Tout à fait.
Donc, c'est beaucoup plus stable que ces histoires de pyramide.
C'est beaucoup plus stable parce que c'est dans la fondation du nouveau système. Mais effectivement, ça veut dire que c'est un investissement à 4%. Aujourd'hui, les bons du Trésor américain payent entre 3 et 3,5%. D'accord ? Et il y a encore quelques mois, c'était proche de zéro. D'accord ? Donc la courbe des taux s'est inversée. Donc aujourd'hui, tu mets ton argent dans un T-bills de 6 mois ou un an, tu vas récupérer 3,2, 3,5. Donc ça veut dire que si tu mets ton argent à essayer de faire fonctionner la blockchain Ethereum, tu gagnes plus. Donc quelque part, ils vont regarder ça.
Ouais. Des fluctuations de la valeur du ETH, bien sûr, qui ça est un autre
tout à fait,
facteur.
Tout à fait. Et aujourd'hui, les crypto-monnaies se portent pas bien. Donc Bitcoin s'est encore cassé la gueule là, à cause du régime inflationniste qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Donc il y avait de toute façon un besoin monstrueux de diminuer le footprint énergétique des crypto-monnaies. C'est super que Ethereum l'ait fait. Il y a encore le problème du Bitcoin. Aujourd'hui, tu vois, même la Chine est en train de dire aux mineurs « Cassez-vous parce que de toute façon, vous bouffez trop d'électricité et ça coûte trop cher. » Alors que jusque récemment, ils étaient relativement lax par rapport à ça. Donc, il y a un côté, je dirais, relations publiques, c'est super positif, c'est beaucoup plus green, machin, hein. Mais il y a aussi une question de survie parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont avoir de moins en moins d'opportunités d'acheter de l'électricité à pas cher ou à zéro. Et ça veut dire que le minage va devenir, ça va devenir impossible de faire de l'argent en minant.
Ouais, il y a effectivement une question de survie, tu as tout à fait raison, philosophique et pratique, quoi. C'est hyper difficile de continuer à valider les blocs quand l'argent coûte aussi cher. Bon, on verra ce que
Pour répondre à ta question fondamentale, oui. Ça n'a rien changé, en fait, sur la perception. Aujourd'hui, si tu veux, il y a jusqu'à la fin de l'année 2021, début 2022, tout le monde partait investir dans les boîtes de crypto, dans les DAOs, dans les machins, dans les trucs, dans le Web3. Ça s'est bien gelé à cause du crash que l'on a vu dans les marchés financiers et dans le retrait général des investisseurs qu'on a vu en Q2 et Q3. Ça a été très prononcé sur le monde de la crypto et du Web3. Et on va voir ce que ça va. Je ne pense pas que ça va changer grand chose, mais je vois ça comme un élément très positif.
Très bien. Et pour les auditeurs qui ne manqueront pas de me le signaler, je sais qu'il y a des moyens d'utiliser la blockchain Bitcoin sans consommer autant d'énergie qu'avec la méthode brute, avec le Lightning Network, machin. Gardez vos emails, je sais, ça ne change pas les fondamentaux de l'utilisation du truc. Donc voilà, je le mentionne pour ceux qui se préparaient à taper sur leur clavier. Pour tout le monde, juste pour le plaisir, il y a donc les autres upgrades dont parlait Marion tout à l'heure, qui sont hyper importantes, qui vont arriver dans les années à venir. C'est pas encore fait, mais ça va aider à réduire les gas fees, par exemple, parce que les gas fees, là, elles sont pas encore réduites. Enfin, il y a plein l'échelle du réseau qui va pouvoir être augmentée, etc. Juste pour vous faire plaisir, voilà les noms des prochaines mises à jour. Après The Merge, il y aura The Surge, The Verge, The Purge et The Splurge. Voilà, donc ça, si ça ne fait pas une série de films avec un multivers des crypto-monnaies, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quelques petits mots avant de changer complètement de sujet. La Banque Centrale Européenne continue à tester les euro numérique. Et beaucoup de gens se disent, mais quelle est la différence entre un euro numérique, je suis déjà en train d'utiliser une monnaie qui est virtuelle, enfin que j'ai pas sur dans mon portefeuille, c'est des lignes sur des chiffres, sur des feuilles de calcul. En fait, l'euro numérique est un petit peu le pendant aux crypto-monnaies parce que il y aura l'idée, c'est d'avoir la monnaie physiquement sur votre appareil. C'est-à-dire que dans votre portefeuille virtuel sur votre téléphone, vous aurez les 5 euros qui vont être transférés presque comme une pièce que vous sortez de votre portefeuille physique et que vous donnez au marchand auquel vous achetez quelque chose. Bah là, le truc est numérique, mais il est quand même présent sur votre appareil. Et du coup, si vous perdez votre appareil, vous perdez votre argent, etc. Mais c'est une vraie décentralisation. C'est pas comme ce qu'on fait aujourd'hui, et qui est peut-être un système plus efficace, hein, mais ce qu'on fait aujourd'hui, qui est que quand on veut payer un marchand, un commerçant, on va envoyer un signal à Visa ou Mastercard qui va envoyer un signal à notre banque qui va dire tu changes le truc de cette ligne à cette ligne sur tes serveurs à toi. Ok, c'est fait, on peut envoyer l'argent. Là, c'est l'utilisateur lui-même qui possède l'argent dans son portefeuille virtuel et qui va l'envoyer sur le portefeuille virtuel du commerçant. Donc, c'est une philosophie qui est très différente. Les tests commenceront au premier trimestre 2023. Et puis, je parlais de portefeuille virtuel. La fondation Linux a créé une autre fondation qui s'appelle Open Wallet, qui est destinée à créer un système de portefeuille numérique mais ouvert. Et je trouve ça important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sociétés comme Apple, Google et d'autres qui créent des portefeuilles numériques, mais qui sont entièrement fermés, évidemment, et qui ont une propriété et une maîtrise totale du système. Je pense que pour ce genre de fonctionnement, il serait pas mal d'avoir une alternative ouverte et, comme souvent, la Fondation Linux s'en occupe. Voilà pour notre petit passage sur les crypto-monnaies. Le moment de faire une petite pause pour vous dire que bah, Bitcoin, c'est peut-être pas super, Ethereum, c'est peut-être sympa, mais le mieux, c'est quoi ? C'est Patreon, patreon.com/rdvtech, c'est un moyen que vous avez pour envoyer des petits sous-sous, qu'ils soient virtuels, numériques, tout ce que vous voulez, à Patrick. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir envoyer des sous-sous à Patrick ? Moi, franchement, objectivement, je sais pas. Et vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Pas besoin d'Apple Wallet, pas besoin de Open Wallet, pas besoin de Google Wallet, tous ces trucs. Non, vous allez sur Patreon, patreon.com/rdvtech, et vous pouvez soutenir l'émission. C'est ça qui est important, c'est soutenir l'émission. C'est ça qui compte, en fait. Et surtout, le fait que vous ayez des bonus comme les émissions sans pub, les émissions avec des timecodes, les émissions bonus, etc., etc. Si vous appréciez l'émission, vous savez où aller, patreon.com/rdvtech. Et un grand merci à tous ceux et celles qui le font ou qui pensent à le faire. Et puis un petit mot pour remercier aussi Fredou du Canada qui nous dit sur iTunes, il a laissé un petit commentaire, il dit une référence, j'ouvre l'application Balado d'Apple Canada, c'est le nom de podcast, des podcasts ici, pour la première fois pour enfin noter l'émission de Patrick que j'écoute chaque semaine depuis plus d'un an. C'est toujours un plaisir de l'écouter sur la route vers le travail. On apprend toujours un tas de choses sur plein de sujets. Merci Patrick pour ton travail. J'espère pouvoir t'écouter encore de nombreuses années. PS, lâche Paris et viens à Québec pour tes prochaines vacances. Tu seras bien plus reposé et ta foi en l'humanité sera restaurée. Il faudrait que je retourne au Canada. J'y suis allé une fois il y a très 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 longtemps et j'avais passé un très bon moment. Merci en tout cas à Fredou. Si comme lui, vous appréciez l'émission, bah soit patreon.com/rdvtech, soit peut-être laisser un petit commentaire, une petite note sur votre app de balado préférée.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Passons à la suite des informations avec le gros... Enfin, bon, c'est un morceau moyen, mais c'est quand même important. Figma, vous connaissez peut-être cette application de design, je suis sûr que Marion la connaît très très bien.
Bah, c'est mon outil principal. Hein.
Voilà. Et donc, c'est un outil de design en ligne et pour des équipes qui peuvent permettre de travailler en équipe très facilement, qui faisait de l'ombre à Adobe et à Photoshop et toute cette suite de production Adobe. Et c'est l'une de ces sociétés de design en ligne comme Canva et d'autres. Et Figma, qui était un petit peu plus complexe, un petit peu plus professionnel que les alternatives comme Canva, vient d'obtenir une offre de rachat ou d'achat tout court, parce que c'est une société privée, une offre d'achat par Adobe à 20 milliards de dollars. Alors, vous allez me dire, oh, 20 milliards, enfin, on a déjà vu des rachats plus importants, c'est pas grand chose. Oui et non, parce que c'est un concurrent d'Adobe qui commençait à venir peut-être lui manger sur les plates-bandes, qui se fait racheter par Adobe et surtout qui a une expertise qu'Adobe a du mal à développer, qui est cette expertise du service en ligne et du service vraiment en cloud native, quoi, qui permet de travailler en équipe très facilement. Marion, c'est un truc qu'Adobe proposait pas vraiment, ce que propose Figma.
Ouais, c'est assez énorme, hein, pour la sphère du product design, pour être honnête. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme outil pour concevoir en product design? Il y a Sketch, qui a été un peu le premier. Alors, je parle pas de tout ce qui est InVision et compagnie, mais pour un logiciel qui permettait de concevoir des applications et du design produit. Il y avait Sketch, il y avait Figma et il y avait Adobe XD, anciennement appelé Comet quand ils étaient en phase de développement. Mais le premier qui a proposé une manière de travailler collaborative en ligne, c'est Figma. Les autres étaient en retard. Et c'est là que, lors du confinement, l'usage et la base d'utilisateurs a explosé pour Figma, en fait. Hein. Nous, on a eu, chez Alan, il se trouve que par un concours de circonstances, on est passé de Sketch à Figma en février 2020. Donc, le timing, je vous raconte pas, quoi. Heureusement qu'on y est passé juste avant le confinement, parce qu'en fait, on était déjà prêts pour travailler de manière collaborative à distance. Et ça a vraiment changé la manière dont on travaillait, quoi.
Et du coup, c'est une société qui est dans une position assez unique, qui, je disais, fait de l'ombre à Adobe. C'est pas vraiment que les gens qui utilisent plutôt les produits Adobe se dirigent systématiquement vers Figma, mais c'est surtout que Figma commence à prendre des revenus qui pourraient aller à Adobe autrement. Donc bon, c'est un petit peu la même chose d'une certaine manière, mais là où c'est très surprenant, c'est que 20 milliards, c'est une somme qui est vraiment énorme, surtout comparé aux revenus de Figma, qui sont environ 400 millions de dollars de revenus récurrents moyens. Donc bon, de 400 millions, c'est beaucoup, mais 20 milliards, c'est quand même beaucoup plus. Et du coup, les préoccupations de Adobe qui va racheter un concurrent potentiel et donc de questions de concurrence s'entendent forcément. J'ai entendu quelques voix dire ah bah oui, mais c'est les exits des investisseurs et donc si les autorités de concurrence interdisent ce rachat, ça démotivera les investisseurs, etc. Bon, toi, c'est ton univers, Jeff, donc j'imagine que t'es aligné sur cette idée ou... Parce qu'une autre idée que j'ai entendue aussi, c'est... Ben non, enfin, Figma, ils avaient vraiment le vent en poupe, ils auraient pu continuer, peut-être même valoir beaucoup plus à une entrée en bourse dans 1, 2, 3 ans... et venir disrupter Adobe, et là, vraiment remplacer un géant. Donc, je sais... Ensuite, je suis sûr que les deux idées se valent, mais Jeff, toi, en tant qu'investisseur dans la tech, comment tu vois la chose ?
Ah bah, je vois la chose... ça me fait mal, parce que malheureusement, j'ai rencontré Dylan Field en mai 2013, et j'ai passé sur Figma. Et donc, ça rejoint la longue liste des boîtes que j'ai, dans lesquelles j'aurais pu investir et où j'ai foiré, donc que ce soit Uber, LinkedIn, Airbnb, et j'en passe, et les meilleurs.
Il est intéressant le personnage de Phil, d'ailleurs, parce que c'est l'un de ceux qui a bénéficié du fellowship de Peter Phil, qui avait dit, c'était quand, en 2013-2014, si vous abandonnez l'université, je vous donne 100 000 dollars tout de suite et vous essayez de faire votre projet là, maintenant, quoi. Et bon, ça a pris un moment, il a fait des trucs qui n'ont pas bien marché avec des drones, des histoires du genre. Mais finalement, oui, ça marche. Après, il faut voir combien ont récupéré l'argent de Peter Thiel et n'ont rien fait avec. Mais ouais, lui, c'est un personnage.
À ce jour, c'est le Thiel Fellow qui est qui a le plus de succès. Parce qu'une sortie à 20 milliards, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. C'est une des plus grosses sorties. Dans le monde du merger and acquisition, des sorties à double digit milliards, déjà c'est assez rare. Effectivement, dans le contexte actuel, le fait que Adobe paye 50 fois les revenus, c'est absolument astronomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si Figma grossit relativement rapidement et 400 millions de dollars pour une startup donc qui a 9 ans, c'est exceptionnel. Bah, je veux dire, c'est vraiment très très bon. Ils étaient vraiment top notch en termes de résultats, en termes de growth, etc., etc. Juste pour comparer, une boîte normale dans les marchés financiers aujourd'hui va trader à 5 ou 7 fois les revenus au maximum. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que Adobe, quand ils ont annoncé le rachat et le prix qu'ils allaient payer, l'action s'est cassée la gueule de plus de 20%.
L'action d'Adobe, ouais.
Donc, la vision de Dylan, qui est quelqu'un d'exceptionnel, c'était à l'époque de dire WebGL change la dynamique en fait de la façon dont on va créer et utiliser les assets Internet. Et donc, il faut déplacer les fonctionnalités, le calcul de l'ordinateur sur le cloud. Et donc, on parle du cloud d'il y a 9 ans. Et objectivement, j'ai dit, écoute, il va falloir que tu lèves énormément d'argent pour être en compétition avec Adobe, et ça va être trop difficile, et je le vois pas. Et bah, malheureusement, je me suis gouré. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il va y avoir énormément de travail du régulateur. Donc, l'acquisition, si elle est approuvée, ça va prendre 6 à 12 mois. Parce qu'on est dans un environnement où beaucoup de démocrates veulent péter les grandes boîtes de tech. Il y a un sentiment antitrust très très fort aujourd'hui au niveau du Sénat et de la House. Et donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'introspection par rapport à ça. Et objectivement, je ne sais pas si le deal va passer. On verra. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a aucune chance dans l'environnement actuel. C'est un exemple, en fait, comme tu le disais, de mouvement anti-compétitif, c'est-à-dire que Adobe voit un compétiteur qui se développe. C'est clair que Figma va pas s'arrêter à 400 millions de revenus, et donc plutôt que d'essayer de les battre au niveau technique, ce qui est impossible pour Adobe, parce qu'ils ont pas. Adobe, c'est une boîte qui est faite pour faire des acquisitions de talents et de technologies de manière à améliorer leur ligne de produits. C'est la façon dont ils ont grandi et ils ont eu beaucoup de succès avec ça. Et je ne sais pas ce qui va se passer. On verra. Ce sera intéressant de voir comment le régulateur va prendre ce deal et le tourner dans tous les sens. Et on verra s'il l'approuve ou pas. Juste pour comparaison, quand Fitbit a été racheté par Google, ça a pris plus d'un an à avoir l'approbation.
Ouais. Bon, bah, voir Adobe est peut-être un petit peu moins visible que Apple, Google et les grands auxquels ils s'intéressent aujourd'hui, mais à voir si ça passera ou pas.
Et je suis pas sûr. Mmh. Vu le montant, vu ce qu'ils payent, c'est pas la petite acquisition que tu peux mettre, tu vois, tu peux passer sous le coin de table en disant regardez pas là.
Non, et puis effectivement l'argument, ils sont en train de racheter la concurrence, c'est ils ont le regret aux États-Unis éternel d'avoir laissé Facebook racheter Instagram. On rachète ce qui nous menace, quoi, clairement.
Et à côté de ça, ils envoient un mail à leurs utilisateurs d'Adobe XD, donc le concurrent de Figma, hein, pour leur dire bon, bah, on a réduit notre investissement dans XD, mais on va continuer à le supporter. Donc, avant même que ça soit validé en termes de rachat, ils arrêtent les investissements là-dessus sur Adobe XD. J'en connais qui doivent être assez déçus. Mais ça, c'est évident, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Figma, en plus, il prévoit de le garder autonome. Mais bon, faut pas se leurrer. C'est évidemment pour aller justifier ensuite un abonnement Adobe Creative Cloud, ouais, qui devient en tout cas de plus en plus difficile à justifier pour des product designers comme moi, hein, pour être honnête. Nous, on a ce problème-là, c'est qu'en fait, on n'utilise plus jamais la suite Adobe, ou très rarement pour quelques retouches d'images par-ci par-là, donc uniquement Photoshop. Et de temps en temps Illustrator pour quelques icônes, mais en fait Figma est tellement bon que ça devient de plus en plus accessoire, la suite Adobe. Et par contre, Figma a réussi à se rendre de plus en plus indispensable, notamment avec FigJam, qui est un outil de brainstorming en ligne, collaboratif, qu'ils ont lancé il y a un an, qui était en test gratuit pendant un an et qu'ils ont passé en mode payant depuis quelques mois, je crois, depuis un ou deux mois. Et là, ils ont réussi à transformer l'essai, c'est-à-dire que là, c'est au-delà de la sphère des designers, c'est-à-dire que n'importe qui dans la boîte peut utiliser FigJam. Et en tout cas, nous, on le voit chez Alan, beaucoup, beaucoup de profils l'utilisent, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant en termes de développement de produits et de vision, quoi. Donc chapeau à l'équipe.
Très intéressant. C'est vrai que moi, dans mon environnement, alors je suis pas designer et je fréquente pas que des designers, mais il y a 5-10 ans, tu entendais toujours parler quelqu'un qui va dire ah, oh, bah je te fais ça sur Photoshop ou j'ai besoin d'illustrateur machin. Aujourd'hui non, c'est tout le monde est sur Figma, à la limite sur Canva quand c'est des influenceurs qui vont faire des petits designs d'images pour le web, mais sinon les gens travaillent sur Figma, ouais, c'est sûr.
ou Sketch. Sketch, tu vois, potentiellement, si Figma se fait racheter par Adobe, il y en a qui vont être vexés parce que ça sera plus un logiciel indépendant et potentiellement pourrait se tourner vers Sketch. Donc, à voir.
Mais pour tout le succès d'Adobe, il y a une vraie animosité envers la boîte. Hein, les gens l'utilisent parce qu'ils sont obligés. Mais l'alternative est quelque chose que les gens célèbrent. Quoi. Donc le fait que Figma, qui était le refuge des gens qui détestent Adobe, se fasse racheter par Adobe, il y a un petit peu de frustration là aussi, je pense.
Ouais, mais je pense qu'il y a des principes fondamentaux qui font que, par exemple, Figma, d'abord, c'était innovant, c'est-à-dire qu'ils avaient un cycle d'itération sur leurs produits quand même relativement rapide. Quand je te dis que FigJam, ils l'ont lancé en un an, alors ils le développaient peut-être dans leur coin, mais en gros, ils ont sorti un outil assez basique et ils n'ont pas arrêté de le développer en prenant des retours et ensuite, ils l'ont monétisé un an après. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, Figma propose quand même une formule gratuite que ne fait pas Adobe à 30 jours d'essai. Mais après, c'est terminé. Alors que Figma, si tu utilises pour un projet, tu peux l'utiliser gratuitement, sans contrainte de temps. Donc il y a pas mal de principes où, évidemment, les gens sont très frileux ou un peu effrayés à l'idée du rachat par Adobe, quoi. Pareil, enfin, excuse-moi, mais les interfaces d'Adobe, moi, j'attendais qu'une chose, c'était de partir Photoshop Illustrator, quoi.
Ouais, ben, comme voilà, tu illustres bien ce que je disais à l'instant.
T'étais où, Marion, en 2013 quand j'ai posé la question à 5 de mes soit designers, soit chefs de produits dans mes startups. Je disais, ouais, ça peut être intéressant, il a une bonne vision, mais il y a tellement de boulot à faire pour développer un ensemble compétitif de fonctionnalités, c'est pas clair. Et en fait, les gens étaient intéressés par avoir, à l'époque, par une alternative à Photoshop et aux outils d'Adobe, mais c'était pas un slam dunk, comme on dit, et donc c'est pour ça que j'ai pas investi.
Oui. Franchement, j'en ai entendu parler plutôt tard. J'ai eu la chance de rencontrer le Dylan Field également et d'en discuter avec lui quand je suis arrivée chez Alan, mais j'en ai entendu parler vers 2015-2017, donc relativement tard, tu vois. Et avant, c'était surtout InVision dont on parlait beaucoup, qui s'est cassé la gueule d'ailleurs.
C'est vrai. Bon, quelques petites news en plus. D'abord, si vous avez un iPhone 14 Pro, certains disent que quand on utilise la caméra dans TikTok, Snapchat ou Instagram, en fait, le module de stabilisation d'image se met à délirer complètement et se met à bouger, presque à vibrer. Il fait tac, 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 tac. Il y a des vidéos très impressionnantes. On ne sait pas ce qui se passe, mais le module bouge physiquement dans la caméra et fait du bruit en se cognant au bord. J'imagine qu'Apple va poster un patch très très vite parce que ça fait très très sale. C'est pas très propre, quoi, cette histoire. Et on parlait la semaine dernière ou celle d'avant des générateurs d'images en intelligence artificielle qui deviennent aussi puissante, aussi créatrice, créative. Bon, je laisse les gens s'énerver sur l'utilisation du terme précis, mais il y a une ou deux semaines, on parlait de Stable Diffusion, etc., etc., d'Ali. Eh bien, il y a des artistes qui commencent à dire, et je disais, c'est le début du conflit entre les artistes et les IA, eh bien, il y a des artistes qui commencent à dire, en fait, nous, on a des problèmes très spécifiques avec ces générateurs qui ont été entraînés sur des images disponibles sur le web, en accès libre, et certains artistes ont beaucoup influencé les algorithmes, et du coup, comme ils sont des artistes qu'apprécient les gens qui créent des images sur ces générateurs, eh bien, certains utilisent carrément le nom des artistes en question, le nom d'un des artistes en particulier qui a été cité, c'est Greg Rutkowski, qui est beaucoup utilisé sur certains de ces générateurs. Il a créé des images de fantasy pour des jeux vidéo, etc. Et quand on met une requête avec son nom dans la requête, par exemple, un mage qui se bat contre un dragon avec une épée de feu, Greg Rutkowski, et on fait cette requête comme ça, et ben ça va sortir la requête dans le style de Greg Rutkowski. Et au début, il se disait, bon, ça va me faire de la pub, ça va me donner de la visibilité, mais il se rend compte que... Alors, c'est lui l'exemple qu'on donne, hein, mais parce que, par exemple, il est... il est beaucoup plus utilisé, genre 50 fois plus utilisé que Da Vinci ou Picasso ou ce genre de choses. Mais du coup, quand il va chercher, lui, sur Google, son propre nom, il ne réussit plus à trouver ses œuvres, mais il est complètement noyé sous celles de Midjourney qui ont été créées avec son nom dans la requête. Alors lui, il n'est pas belliqueux, il n'est pas particulièrement anti-IA, mais il dit bah ça pose un vrai problème parce que du coup ça crée tellement d'images qu'on ne trouve plus les miennes quoi. Donc c'est un aspect intéressant de cette discussion qu'on avait il y a une ou deux semaines.
Ouais, c'est vraiment juste pour rebondir un peu, c'est vraiment fascinant hein, comment le travail d'illustrateur ou de graphisme va évoluer avec ces nouveaux types d'outils. Parce qu'en fait, finalement, l'intelligence artificielle c'est un outil, hein, c'est pas quelqu'un qui va remplacer l'humain. Et comment les illustrateurs et les graphistes vont se l'approprier. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est au lieu d'être dans une posture ça va voler mon travail. C'est comment je peux améliorer, augmenter ou être encore plus efficace dans mon travail avec ce type d'outil. Donc je trouve ça assez intéressant. Nous, on a eu la discussion à un moment donné parce qu'on fait appel à une illustratrice pour un de nos produits et à un moment donné, on a tous les droits hein, sur ces illustrations, on a les fichiers sources, etc. On les paye, hein, on la rémunère pour ça. Mais en fait, à un moment donné, on s'est dit bon bah en fait bientôt on pourra juste, enfin il y a des intelligences artificielles, tu leur donnes ce type d'image et tu leur dis bon bah fais-moi une horloge dans le même style que cette illustration. Et donc là, on n'aurait plus besoin de faire appel à ces services, tu vois. Et donc on s'est posé ce genre de questions là-dessus. Donc c'est des sujets assez intéressants.
Et puis je crois qu'il y aurait, quand c'est aussi spécifique que ce genre de choses, peut-être qu'il y aurait des deals à passer entre les développeurs de ces algorithmes et l'artiste en question pour dire bon bah on peut générer des images dans le style spécifique de tel ou tel artiste, mais du coup il y a une partie de la rémunération qui va à lui, comme on partage les revenus de la musique et on les partage avec les artistes quand on a des abonnements, ce genre de choses. Mais bon, tout ça, c'est des systèmes à construire, des nouveaux.
Ouais, mais ce qui est compliqué, c'est comment tu vas définir qu'un style d'illustrateur appartient à cet illustrateur alors qu'il peut être très similaire à une trentaine d'autres illustrateurs. Tu vois, c'est autant une musique et un enchaînement, à la rigueur, tu peux calculer et voir l'extrait qui est utilisé et le match avec quelque chose qui a été créé par un artiste. Autant un style d'illustration, je trouve ça un peu plus abstrait.
Bon, moi, ce que je veux dire, c'est si jamais on utilise dans la requête le nom d'un illustrateur spécifique. Tu vois, ouais. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut se dire, bon, bah, c'est son style à lui qu'on veut. Donc, mais bon, après, il y a 1000 modèles à développer sur ces trucs-là. Et puis justement, on parle de copie et d'originalité. Discord est en train a publié une sorte de forum Reddit dans les serveurs, donc d'ajouter une fonction de chaîne qui ressemble à un mix entre forum et Reddit. Meta, donc Facebook, est en train d'ajouter une fonction qui ressemble à Discord dans Messenger et Facebook. Donc, tout le monde se copie, c'est très bien. TikTok est en train d'ajouter une fonction qui ressemble à Biril. On a parlé de Biril à de nombreuses reprises dans l'émission. Donc, c'est l'app qui a le vent en poupe en ce moment, qui vous dit prenez une photo de vous dans les 2 minutes et ça fait une photo de devant vous et votre photo selfie en même temps, qui est hyper populaire en ce moment. Donc, TikTok est en train de copier. C'est intéressant, TikTok se met à copier des trucs. Pour la première fois depuis des années, tout le monde copie TikTok. Maintenant, TikTok copie quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, Biril est en train d'explorer des moyens d'avoir un service payant pour ne pas avoir à ajouter de la publicité. Ils ont 15 millions d'utilisateurs quotidiens aujourd'hui. Ils en avaient 10 000 il y a un an et demi. Donc, c'est quand même une grosse croissance. Et ils explorent un système d'abonnement pour éviter de la publicité. Ça serait une première, hein, vraiment. Enfin, une première. S'ils réussissent leur coup, c'est quand même rare de réussir parce que tout le monde va vers la publicité, comme YouTube. Et il y a certaines vidéos YouTube qui ont aujourd'hui 10 pubs qu'on ne peut pas passer par pause pub. Alors, c'est des pubs très courtes de 5 secondes, mais quand même, 10 pubs à la suite sur YouTube. Quand on part sur le chemin de la pub, je pense que ça a l'air d'être assez inévitable quand on est une grosse machine. D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'une coupure pub. Ah non, c'était tout à l'heure, pardon. Mais voilà, donc là, c'est un petit peu un medley de plusieurs news. Ce qui en sort, c'est que tout le monde copie tout le monde, quoi. Donc, les générateurs d'images en IA, ils sont juste en train de faire ce que tout le monde fait depuis longtemps, finalement. Donc voilà pour ces quelques petites news. Est-ce qu'on va parler de l'action de Meta qui a chuté de 61% en 12 mois, d'Apple, on parlait de pub tout à l'heure, qui continue à augmenter le nombre de placements publicitaires dans l'App Store, ou, allez, dernière news, Intel qui abandonne les noms Pentium et Celeron, qui sont arrivés il y a 30 ans, Pentium, et un petit peu moins Celeron, et donc on aura des processeurs Intel maintenant avec plus de reconnaissance. Vous allez pleurer la perte des noms Pentium et Celeron, bien sûr. C'est des souvenirs mémorables auxquels nous allons dire au revoir.
Oui, parce que moi je me rappelle quand ils les ont introduits, donc ça me date, puisque du temps, je crois que mon premier ordinateur avait un 286, un Intel 286. Mm-hmm. Donc. Et moi, j'ai une news, by the way, c'est oui. Que pour la première fois depuis 2 ou 3 ans, je suis en fait excité par l'iPhone 14 et je vais acheter un iPhone 14 à moi et ma petite femme parce qu'ils sont quand même vachement bien.
Le 14 Pro, j'imagine, pas le 14.
Ouais, le 14 Pro, ouais.
Ouais, avec le Dynamic Island. Oh, je suis amoureux du Dynamic Island. Mais moi, j'ai réussi à me retenir, tu vois, cette semaine. Et du coup, maintenant, la fièvre est passée. Je me dis, non, c'est bon, je vais attendre la semaine prochaine. Très bien. Comme je disais sur Twitter, j'ai tourné mon clavier 7 fois dans ma bouche avant de rentrer mon numéro de carte bleue. Et ça m'aura servi, bien servi, parce que du coup, ça va.
Moi, j'attendais d'être revenu, parce que j'avais autre chose à faire quand j'étais en vacances, mais non, c'est. Je pense que les fonctionnalités sont vraiment sympas. Il est un peu plus grand, donc je vais passer la commande et je vais dire au revoir à mon iPhone 11 qui m'a très bien servi. Donc tu vois, j'aurais fait 11, 14.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, 10 et 10S du coup, le 11, j'imagine. Parce qu'il y a, il y a eu un 11. Ah si, il y a eu un 11. Ouais. Bon, ça fait, si, si. Fait quand même pas mal. Ouais.
11 Max Pro.
Ouais. C'est bien. Très bien, très bien.
Et puis je vais vous laisser parce que c'est l'heure pour moi de.
Eh ben on va filer de toute façon parce qu'on a fini l'émission. Je disais qu'elle serait plus courte. On te retrouve où, Jeff ?
Ces jours-ci, en fait, je fais pas grand-chose en social media. Je poste beaucoup en privé. Donc toi, t'es mon ami, donc tu vois mes photos de Tahiti.
T'es pas sur Viril ? Ah, mais t'es pas.
Non, autrement, je suis @ Jeff sur Twitter.
Magnifique. Eh bien, écoute, on te retrouve sur Twitter @Jeff. Merci beaucoup et on te laisse filer.
Merci. Au revoir à tous et à dans un mois.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Salut, chat.
Et Marion, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Eh bien, moi, vous me retrouvez sur Twitter au pseudo Aizea Design ou sinon tous les mardis matins de 8h à 9h sur Twitch sur Naotech Team.
Magnifique. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et vous me retrouvez aussi sur NotePatrick.com. Mais qu'est-ce qu'il y a sur NotePatrick.com ? Eh ben, il y a tout ce que je fais, les podcasts, la chaîne Twitch. Bon, là, on n'y est pas pour cet épisode, mais généralement, on diffuse en live le mardi midi et le jeudi midi. Et puis, il y a le Discord, où il y a les gens les plus sympathiques de la planète et de l'Internet. Tout ça est lié sur NotePatrick.com. Et bien sûr, vous avez aussi les liens dans les notes de l'émission, y compris Patrick. patreon.com/rdvtech que vous pouvez retrouver très facilement pour soutenir l'émission. patreon.com/rdvtech quand vous arrivez chez vous, si vous ne l'avez pas fait dans le métro, dans le bus, quand vous étiez en vadrouille, bah vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling et là vous dites Patrick. Cling Patrick, c'est le slogan de cette émission depuis maintenant plusieurs années et j'espère que vous vous en souviendrez pour aller sur Patreon. Merci à tous et à toutes, on vous fait de grosses grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite des actualités. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall.
Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.